Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Donc, soyez les bienvenus au milieu de nous. Amen. Le Seigneur, par son Saint-Esprit, est là. Il parle à nos cœurs d'une manière et d'une autre. Alors, sans plus tarder, on va avoir plongé nos regards dans la parole de Dieu avec ce thème. On sait que, par exemple, à un moment donné, le Seigneur nous exhorte à venir à l'Église. On sait que l'Église, c'est chacun d'entre nous. Hein. Vous le savez. Un jour, non, c'était avant-hier, hein, quelqu'un au téléphone me dit « C'est quoi l'Église ?» Quelqu'un qui m'appelait voilà, pour différentes choses, il dit « C'est quoi l'Église ?» Ben, j'ai dit « L'Église, ce sont les pierres vivantes. » Et les pierres vivantes, c'est qui ? Ben, les pierres vivantes, c'est tous ceux et celles qui ont été rachetés de la vaine manière de vivre et qui désormais appartiennent au Seigneur. Alléluia, amen. L'image de ces pierres vivantes, c'est en fait, nous sommes des briques. Et les briques, vous savez que dans un trou, si on enlève une brique, ben, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Alors, je bénis le Seigneur parce que ça, c'est un vrai miracle. Ce matin, on va partager sur l'Église et le fait d'aller à l'Église, non seulement d'aller à l'Église, mais il y a une question qui vient juste derrière, mais pourquoi faire ? Pourquoi venir à l'Église ? Alors, aller à l'Église, mais pourquoi faire ? Vous avez vu l'image ? Elle est pas mal. Certains m'ont envoyé des messages en disant « Oui, pasteur, vous avez reçu des photos anciennes de l'Église. » Alors non, aujourd'hui, on sait qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire beaucoup de choses. Vous en avez la preuve ici, parce que vous remarquez que il y a deux entrées, et ici, il n'y en a qu'une seule. Hein. Donc, en fait, c'était pour améliorer la qualité de la photo. Voilà pourquoi. Alors, aller à l'Église, pourquoi faire ? Alors, aller à l'Église, ce n'est pas une tradition, une simple tradition. Il y a des choses qui sont bonnes, une bonne habitude, ou simplement par tradition. On ne vient pas à l'Église par tradition. Je me souviens de quelqu'un, un pasteur, à un moment donné, qui avait... Il donnait son témoignage avant de se convertir dans toute sa famille. Personne ne connaissait le Seigneur. Et puis, dans la nuit du réveillon, hein, donc à Noël, ils avaient l'habitude d'aller à l'église, prendre un temps pour, à ce moment-là, se recueillir. Mais au préalable, depuis 18 heures, ils faisaient l'apéritif. Et donc, ils arrivaient très, très amochés. Pour la messe de minuit. Alors, tout ça pour dire que des fois, on imprime des choses, on fait des choses, on dit ben, « je vais à l'église » et finalement, ça devient une simple tradition. Et il ne faudrait pas que nous, alors j'ai pris cet exemple de certains qui étaient catholiques, il ne faudrait pas que nous, voilà, dans nos milieux évangéliques, ben, ça devienne pareil. Hein. Je viens à l'église par tradition. Le dimanche matin, oh là là, je pourrais rester au lit, mais non, je suis obligé d'aller à l'église. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, on était obligé de rien. Mais voilà, quand même, il y a un effort, des efforts à faire, et on va le voir. Et puis, j'espère que, en terminant ce partage, vous allez avoir un éclairage sur l'importance de venir. Pourquoi venir ? La question, elle est tellement importante. Donc, ce n'est pas par simple tradition, c'est une nécessité spirituelle. Et quand on le comprend, alors on va tout faire pour y participer et être là. C'est également une source de croissance. C'est là que je vais grandir. Alors, tous ces points, on va les développer. Hein. C'est un lieu de mission également, où on annonce l'Évangile, on annonce une bonne nouvelle. Vous ne trouvez pas qu'au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, on a besoin d'entendre la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une. Hein. Il y a une bonne nouvelle, alléluia, c'est que le Seigneur nous aime. Alléluia. Il nous aime, et donc je le disais tout à l'heure, hein, donc non seulement il nous aime, mais il l'a prouvé à la croix du calvaire en donnant sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. C'est une expression également d'obéissance envers Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de mettre l'accent dessus parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, aller à l'église, c'est devenu optionnel. Il n'y a pas un amen. Je comprends. Je comprends, hein, parce que sinon, là, on va avoir les regards braqués sur nous. Alors, il y a ce passage qui a besoin d'éclairage également, qui va nous servir d'introduction. C'est Hébreux, épître de Paul. Non, pas de Paul. Alors, on fait souvent cette erreur. On présume que c'est Paul, mais comme ce n'est pas spécifié, donc l'auteur de l'épître aux Hébreux Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais plutôt, exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le même verset dans la version Parole de vie. N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns et les autres, puisque, vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Alors, à l'époque, déjà, il disait que le jour du Seigneur est proche. Aujourd'hui, plus que jamais. À un moment donné, le Seigneur a dit qu'il allait, venir. Là, aujourd'hui, c'est pas qu'il frappe à la porte, il a déjà la main sur la poignée. On le voit avec tous les événements. Peut-être sûrement un dimanche, on parlera de tout ce que nous voyons aujourd'hui et de tout ce que la parole de Dieu avait déjà annoncé, tous les signes qui s'accomplissent devant nous. Le retour du Seigneur est proche et ce n'est pas le temps de se préparer, c'est le temps d'être prêt pour ce retour. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ne surtout pas manquer ce rendez-vous. Alléluia. Alors, on revient à ce verset de Hébreux, chapitre 10, verset 25. Ce qu'il faut savoir, le contexte de ces paroles, c'est que l'auteur, il écrit, c'est parce qu'à ce moment-là, il y avait de la persécution. Et comme il y avait de la persécution, certains avaient peur pour leur vie. Et lui, donc, l'auteur est en train d'écrire, eh bien, n'abandonnez pas. Voilà, venez, ne faites pas cette erreur, parce que du coup, si on fait cette erreur, alors il peut... Justement, voilà, il peut arriver des choses qui ne sont pas terribles, et on s'aperçoit que à ce moment-là, ces paroles ont été données pour se stimuler les uns et les autres. Et je crois que plus que jamais, l'Église, elle est là pour se stimuler les uns et les autres. Alléluia. Se stimuler, c'est s'encourager, c'est s'exhorter les uns et les autres. Amen. Que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes qui encouragent. Des Ananias, alléluia. On prie, Seigneur, envoie-nous des Ananias, que chacun comprenne que je ne suis pas simplement dans une église pour bénéficier de tout ce qui est fait, mais d'y participer également. Alléluia, amen. Quelle grâce, quel privilège. Humainement, c'est sûr, humainement, on aime mieux être servi. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est à notre tour de pouvoir servir les intérêts du roi. Amen. Jésus va le dire à un moment donné, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Oh, que cette prière soit la nôtre. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Alors, se stimuler les uns et les autres dans l'amour de notre Seigneur et dans les bonnes œuvres. C'était donc le contexte. Et en fait, il dit également donc encourager et se rassembler régulièrement. C'était la souche principale du mot qui est employé ici. C'est le mot synagogue qui est devenu synagogue. C'est se rassembler, être ensemble, donc être unis. Moi, je bénis le Seigneur parce que c'est un miracle permanent, ça, de pouvoir nous unir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de faire ces choses-là. Donc, s'exhorter les uns les autres, d'autant plus que nous voyons à s'approcher, arriver la seconde venue de Christ. La première fois, le Christ est venu en serviteur. Il est venu pour servir. Servir, donc, à tous les niveaux, je l'ai dit tout à l'heure, mais servir d'offrande. Donner sa vie pour l'humanité tout entière. Mais la deuxième fois, quand il va revenir en Seigneur, alléluia, en triomphant, alléluia, il a triomphé déjà, mais un retour triomphant, à lui seul soit toute la gloire. J'espère pouvoir le voir de mes propres yeux, à un moment donné, le retour en gloire de notre Seigneur, celui que l'on attend. Alors on ne doit pas être dans la crainte, parce que quand on a la certitude que nous sommes sauvés, nous ne sommes pas dans la crainte. Si peut-être quelqu'un ce matin est dans la crainte, ça sous-entend qu'on n'est pas sauvé et qu'on a besoin de rectifier quelque chose. Et peut-être que cette prédication, elle va servir qu'à ça, à un moment donné, à révéler qu'il y a une crainte. S'il y a la crainte, ben ça sous-entend qu'il y a des choses à faire. Parce que quand il y a cette assurance du salut, on ne s'inquiète pas de comment, voilà, ça va arriver. Il nous tarde même. Je ne sais pas si c'est votre cas. Hein. Alors, bien sûr qu'on ne veut pas mourir. Hein. On ne veut pas dire, Seigneur, voilà, hein, que tu puisses me foudroyer. Alors, ça serait une bonne manière, je trouve, de mourir. Hein. Mourir en prêchant la parole de Dieu. Ça serait excellent. Hein. En tout cas. Mais nos regards sont vers l'éternité, alléluia, parce que le meilleur est devant nous. Quelqu'un est d'accord avec ça? Le meilleur est devant nous, amen. Fini les pleurs, fini les douleurs, fini, voilà, à un moment donné, la tristesse, fini le combat avec la chair. Le combat, il est permanent, hein. Jour après jour, les tentations, beaucoup de choses qui sont là. Mais une fois que nous serons là-haut, nous serons assis à la table du roi, alléluia. Alors ce jour-là, il nous encourage, hein, nous sommes encouragés les uns et les autres. Et si quelqu'un, à un moment donné, vous voyez un frère, une sœur en train de se décourager, surtout, soyez quelqu'un qui relève. Soyez celui qui va mettre une main autour du cou en disant, mon frère et ma sœur, persévère. Persévère, parce que la récompense, elle sera grande là-haut, la présence de notre Seigneur. Amen. Alors, on a vu ensemble que certains avaient pris l'habitude de ne plus venir. Le contexte, pour eux, c'était la persécution. Aujourd'hui, on ne vit pas en France la persécution. Peut-être qu'un jour, on va la vivre. On va la vivre. On va peut-être vivre la persécution dans d'autres pays. Ils la vivent. Ils la vivent au jour le jour. Il y a dans des pays, quand des personnes demandent le baptême, alors quand il y a l'entretien au baptême, et puis le jour de leur baptême, on leur pose la question. C'est pas est-ce que tu veux suivre le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est est-ce que tu es prêt à mourir pour le Seigneur. La question, elle est différente. Du coup, l'engagement, il est autre. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à donner notre vie pour le Seigneur? Alors, dans ce contexte-là, eux, ils étaient dans la persécution. Mais aujourd'hui, on est contraint et forcé de le dire. Hein, en France, on peut vivre une certaine persécution. C'est une persécution, hein, en fait. On est comme, peut-être, on peut être dans cette position où on a tout. On est dans un pays, voilà, où, voilà, matériellement, ça va aller, hein, ça va aller. Alors, évidemment que la parole de Dieu n'est jamais contre le matériel. Le problème, il est toujours si on fixe tout notre objectif et toute notre motivation est dans cette direction. Si nous nous fixons que sur les choses matérielles, parole de Dieu, que nous dit que nous sommes bien pauvres et c'est quelque chose de triste. Nos regards sont ailleurs. Et quand on est voilà détaché de tout ça, alors le Seigneur va nous bénir. On l'a expérimenté à maintes reprises. Il va nous bénir matériellement parce qu'on n'y est pas attaché. Dites-moi si, je ne sais pas, au niveau de vos enfants, dans l'éducation, si il vous semble que si vous donnez quelque chose à un de vos enfants, ça peut l'amener à, je ne sais pas, à être malade, à s'éloigner de vous, d'avoir quelque chose, de vivre quelque chose de pas bon. Vous n'allez pas lui donner. Hein. C'est exactement pareil pour chacun d'entre nous, parce que Dieu nous aime tellement. Il nous aime tellement que s'il nous donnait certaines choses, alors on pourrait se perdre au final. Que nous puissions fixer les regards vers notre Seigneur. Donc c'était le contexte, n'abandonnez pas notre assemblée, certains avaient pris cette habitude. Et finalement, ce passage-là, il est là pour encourager. Il est là pour dire, mais il faut qu'on y aille ensemble. Et, alors, je ne l'ai pas lu, hein, mais juste le verset qui précède, le verset 24, il dit, veillons les uns sur les autres. Pas surveillons. Hein. Des fois, on comprend mal le verset 24. Surveillez vos frères et sœurs, jamais de la vie. C'est veiller sur, avoir un regard bienveillant. Mon frère et ma sœur, voilà, je veux déjà demander la protection de Dieu sur sa vie, et puis je veux veiller, alléluia, que le Seigneur soit béni. Dans le sens de ce passage, le rassemblement n'est pas une option, mais c'est une instruction divine. C'est Dieu qui veut finalement que l'on se retrouve ensemble. Alors pour répondre à la question, pourquoi aller à l'église? Pour se retrouver ensemble, parce que c'est un commandement de Dieu et c'est une instruction divine. Aujourd'hui, on peut le reléguer, et on peut mettre en face, quand on doit prendre la décision de venir ou de ne pas venir, on peut mettre beaucoup de choses. Une balade à vélo, je ne sais pas, à un moment donné, un certain événement. Alors, évidemment, comprenez-le, hein, si 99% du temps vous êtes là et que, un dimanche, ça peut arriver, hein, il n'y aura pas de souci. Hein. Mais c'est quand c'est le contraire, en fait. C'est dans l'autre sens qu'il y a un souci parce que la parole de Dieu, elle est claire. Moi, je ne vois pas. À un moment donné où il y a un entre-deux, moi ce que je vois dans la parole de Dieu, c'est soit c'est blanc, soit c'est noir. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de pouvoir le dire. Et en tant que pasteur, nous vivons des temps, on le voit dans les églises, aussi de difficultés à ce niveau-là, avec le peu d'attachement. Et on a compris d'où pouvait venir le problème. Parce que l'église actuelle, elle enfante beaucoup de croyants, mais peu de disciples. Je répète, l'Église aujourd'hui enfante beaucoup de croyants, mais peu de disciples. Parce que quand on est disciple, notre vie, elle est offerte sans cesse sur l'autel des sacrifices. Alors c'est sûr que c'est une prédication qui vient peut-être nous bousculer, qui vient nous faire réfléchir. Alors, que le Seigneur fasse, que nous puissions obéir au Seigneur et dire, Seigneur, ce matin, tu me parles et il y a des choses à rectifier. Alors, je sais que c'est une instruction divine de pouvoir nous retrouver. L'Église n'est pas un bâtiment, mais c'est un peuple réuni autour d'une personne, autour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, pendant le partage du repas du Seigneur, vous disiez que la mort n'a pu retenir le Seigneur, il est vivant. Il est au milieu de nous. Est-ce qu'on le réalise? Est-ce que réellement, on le réalise? Alors si c'est le cas, gloire à Dieu. Mais si on fait les choses machinalement, il faut qu'on s'arrête 30 secondes et dire, mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Alléluia. Et vous savez, il y a cette histoire, à un moment donné, quelqu'un qui priait le Seigneur et puis il avait cette sensation que le Seigneur n'était pas là. Puis un jour, quelqu'un va lui donner ce conseil. Mais quand tu pries, prends une chaise vide, et dis-toi, et c'est la réalité, le Seigneur est assis là, et il écoute ta prière, il est avec toi. Et le Seigneur est là ce matin, il est au milieu de nous, alléluia. Alors ce que nous avons fait, nous l'avons honoré, nous l'avons chanté, alléluia, que son nom soit béni. Oui, nous sommes réunis, c'est un peuple réuni autour de Christ. Le but, c'est de s'encourager, le but, c'est la persévérance, et le but, c'est également la croissance, et que nous puissions grandir les uns par rapport aux autres, grandir spirituellement. Ben oui, vous savez, des fois, il y a des chants moi, qui me font sourire. Et par exemple, ce chant, c'est auprès de Dieu. À un moment donné, il dit, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. Si on le prend physiquement, je pars avec un désavantage direct. En fait, c'est spirituellement. Mais pour grandir, c'est aussi simple que ça. Hein. On en parlait vendredi, en terminant la réunion. Le Seigneur a déposé dans nos cœurs sa parole, son esprit. Et vous savez, nous sommes comme cette graine. Et on a besoin de se développer jusqu'à ce qu'on devienne des arbres afin de pouvoir recueillir d'autres oiseaux. C'est dans la parole de Dieu, cela. Mais pour devenir un arbre, il faut sans cesse être arrosé. Mais pour être arrosé, il faut être ensemble. Pourquoi être ensemble pour persévérer, pour croître? Et également, pourquoi être ensemble? Pour adorer Dieu ensemble. C'est ce que nous avons fait ce matin. On l'a loué. Moi, je bénis le Seigneur et je me reprends sans cesse parce que la chair est là. Ce que je prêche, je me le prêche évidemment. Hein, sinon, je serais un insensé. Et des fois, on fait des choses machinalement. Avec le temps, on a nos habitudes. On a même nos habitudes par rapport à certains chants. On sait la strophe suivante, on connaît les paroles. Et puis, on ne réalise plus ce qu'on est en train de chanter. Mais le Seigneur nous a donné quelque chose d'extraordinaire, une puissance insoupçonnée. La louange. La louange collective. Je suis toujours étonné quand, par exemple, on partage le pain et le vin, alors que ça devrait être, à un moment donné, un rappel de la grâce du Seigneur accordée à la croix du calvaire, et puis qu'on reste insensible. Toujours étonné par rapport à ça. Oui, nous avons ce privilège de pouvoir adorer Dieu ensemble. Regardez l'exhortation du psaume 95, versets 1 et 2. Regardez à chaque fois le fait d'être ensemble. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges et faisons retentir des cantiques en son honneur. Ici, on voit au travers de ces deux versets le fait de venir ensemble en tant que peuple de Dieu. Donc, venez, chantons, nous tous, le peuple du Seigneur. Chantons, poussons des cris de joie. Alors, on n'est pas là pour du spectacle et crier pour crier. Mais en fait, c'est crier notre joie au monde entier. Et ça n'a rien à voir avec un volume sonore. Mais des fois, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Parce qu'on sait comment ça se passe. Mais ça se passe à l'intérieur. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur que ça se passe à l'intérieur. Il faut que ça sorte aussi, hein. Parce que des fois, il y a la chair qui ne veut pas. Et non, tu n'es pas assez sain. Tu n'as pas le droit. Hein. Ou alors, un tel, tu as vu un tel, comme il apporte sa louange, c'est impossible que je fasse pareil. Le Seigneur n'attend pas cela de qui que ce soit. Il attend qu'on puisse lui dire un simple merci. Il dirait, Seigneur, je te remercie. Alors je sais que certains vous le faites, certains vous avez une voix qui est faible. Alors ça, évidemment, ça ne s'adresse pas à vous. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse venir ensemble. On vient chanter, on vient pousser dans des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons, il y a cet effet également de faire aller. Allons au-devant de lui avec des louanges et faisons retentir des cantiques en son honneur, alléluia. En général, vous avez remarqué, quand on est dans la joie, alors je ne sais pas vous, hein, mais soit on chante, soit on siffle. Alors siffler, bon, une fois c'est arrivé à un frère dans l'église, à un moment donné, mais il l'a fait tellement spontanément que j'ai trouvé ça en fait beau en fait. À un moment donné, il était tellement dans la louange, il est parti à siffler. Il avait sûrement l'habitude chez lui de faire comme ça. Alors moi, ça m'a fait sourire sur le coup. Certains dans l'église aussi, ça les a fait sourire. Mais en fait, c'est quand on est heureux. D'ailleurs, on exprime notre joie à travers de chants, au travers certains sentiments. Alors, faisons retentir des cantiques en son honneur. Alléluia, parce que Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité, Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, le Seigneur dit, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, hein, vous vous rappelez le contexte, à un moment donné, il y a on est en train d'un dialogue qui est là entre Jésus et cette femme, et cette femme, elle revendiquait qu'elle avait la vérité. Et pour s'approcher de Dieu, elle avait la bonne méthode et la bonne manière. Jésus vient pour lui amener un éclairage. Et lui dit, bien, et l'heure est déjà venue que les vrais adorateurs adoreront qui ? Le Père. Comment ? En esprit et en vérité. Et il dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande, et dans notre version, c'est que le Père recherche. Je crois de tout mon cœur que ce matin, le Seigneur qui siège au milieu des louanges de son peuple, il était avec son moyen à lui, hein, moyen de voir dans les cœurs, et il recherchait qui allait le louer en esprit et en vérité. Alors je bénis le Seigneur parce que certains l'ont fait, gloire à Dieu, alléluia, et c'est ce que nous devons vraiment nous focaliser Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Pourquoi ensemble? On peut adorer seul, bien sûr, mais quand on se réunit, il y a une puissance qui se dégage. On voit plusieurs épisodes, plusieurs histoires dans la Bible où quand on loue ensemble. Et souvent, nous, on a hérité à un moment donné de par la tradition. Oui, on prie, on s'exprime, et puis l'un après l'autre. Moi, je vois également, alors c'est une bonne chose, il faut le faire, évidemment, hein, mais je vois également dans la parole, c'est ensemble. Alors, certains disent, mais moi, je veux entendre ce que mon frère, je veux dire, amen à la louange de mon frère et de ma sœur. Gloire à Dieu. Donc, il y a un temps pour ça, mais il y a un temps où je vois également, il y a plein de versets qui disent que ensemble, ils élevèrent la voix. Ensemble. Et des fois, alors je le dis, hein, on est politiquement correct, hein, ça dépasse pas. Et puis, tant pis, hein, même si on se fait pas d'amis. Mais on n'est pas là pour faire des amis, on est là pour dire la vérité. Et puis, des fois, on a tellement d'ardeur, on manque d'ardeur dans la louange, et puis quand la réunion termine, on va parler de la pluie, du beau temps, avec une force. Je sais plus quand c'était. Je disais, waouh, si on pouvait mettre cette énergie, enfin la même, au moins la même, à louer le Seigneur, ça serait extraordinaire. Hein. Certains, si vous voulez savoir où est leur cœur ou leur motivation, parlez-leur de quelque chose qui les intéresse, et vous allez voir. Voilà, il y a des moments où des fois je me dis, oh là là, je me suis embarqué dans un truc. Certains, alors ils sont tellement remplis qui mettent du temps à se vider. On vous parle, on parle, on voit qu'on est passionné par ces choses-là. Mais gloire à Dieu, il faut qu'on ait ces relations-là. Mais il faut qu'il y ait vraiment les choses principales. Louer le Seigneur de tout notre cœur. Et connaissant la plupart ici, on n'a aucune facilité à discuter les uns avec les autres. Apportons notre louange au Seigneur, tous ensemble, afin que notre louange, elle soit vivante et qu'on vive des choses tellement puissantes. Je vous promets, avec Henriette, on pourrait vous témoigner combien de fois, enfin, on a vécu des choses pas extravagantes, hein, alors je le dis régulièrement, pas des choses farfelues que l'on voit des fois sur certaines vidéos, mais des choses profondes dans la louange où le Seigneur parle. Non seulement dans la louange, mais également dans des silences. Alors ça, c'est un paradoxe. Dans le silence, Dieu parle. Vous l'avez sûrement vécu, un moment tellement la présence de Dieu est là, on n'ose même plus respirer. J'espère que vous l'avez vécu. Alléluia. Ceux qui l'ont vécu, on doit poursuivre ces choses-là. Ce sont des choses qui sont bonnes pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous fasse grandir dans la louange. C'est tellement dommage. Hein, c'est ensemble, glorifions le Seigneur. Hein. Par exemple, ce matin, Claude n'a pas entendu, mais par exemple, Pascal a commencé à louer le Seigneur. Tu l'as pas entendu parce qu'il était à l'autre bout. Tu étais là. Mais moi, je dis, bénis le Seigneur. On bénit le Seigneur par rapport à ça. C'est pas un souci. Le Seigneur sait faire la différence. Si, des fois, on s'arrête, il y en a deux. Si, des fois, on s'arrête, bon, voilà, il n'y a pas de souci non plus. Mais prenons cette habitude de pouvoir louer le Seigneur. Et puis, de nous poser la question. Qu'est-ce qui m'empêche finalement d'élever la voix? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et si c'est la chair, la timidité, ben c'est peut-être un travail que le Saint-Esprit veut faire dans vos cœurs, afin de nous donner cette liberté. Alléluia, amen. Et je suis bien placé pour vous en parler, hein, de ces choses-là. À un moment donné, on est tous pareils. On arrive dans une église, on est touché par le Seigneur, et puis on voit les uns et les autres s'exprimer devant le Seigneur. Et la première des choses que je me souviens m'être dit, c'est pas possible, en fait. Je pourrais jamais, moi. Je pourrais jamais. Alors c'est sûr, hein, humainement, non. Mais quand on réalise la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et vous savez que des fois on dit, Seigneur, sers-toi de moi. Aujourd'hui, sers-toi de moi. Et des fois, on se focalise que sur les dons spirituels ou sur le fait de faire autre chose. Le fait d'apporter votre louange peut bénir quelqu'un. Quelqu'un qui traverse un problème, une difficulté. Le Seigneur va se servir de vos paroles pour toucher quelqu'un. Alors soyons de ceux et de celles voilà, qui œuvrent pour le Seigneur. Alors se réunir ensemble, pourquoi venir à l'église? Pour louer le Seigneur, pour recevoir également l'enseignement de la parole. Alléluia. Je vous disais tout à l'heure que le Seigneur a déposé la graine de vie dans notre cœur et il faut que cette graine soit arrosée. Si on prend deux arbres, les mêmes graines, on les plante au même endroit, dans la même terre, si sur une graine, je l'arrose trois fois par semaine, et l'autre, je l'arrose une fois par semaine, vous allez vous en apercevoir que dans peu de temps après, qui vont suivre, il va y avoir une différence de croissance. Mais c'est exactement pareil quand on se retrouve ensemble. Je l'ai dit d'emblée, c'est jamais une obligation. Mais on réalise qu'au contact de la parole du Seigneur, c'est là où on grandit, c'est là où on se fait du bien et le Seigneur nous arrose de sa parole et puis on progresse et on va de l'avant. Mardi dernier, à un moment donné, j'ai dit dans le partage, j'ai dit, rendez-vous compte, hein, à un moment donné, on a chanté, je crois, que nous sommes l'armée du Seigneur. Je disais peut-être que si quelqu'un venait, il dirait, mais c'est ça l'armée du Seigneur? C'est ça, là? Ben oui, parce que la puissance, elle est à l'intérieur de nous. Alléluia, amen. Et ça n'a rien à voir avec le nombre, en fait. Mais ça a à voir, quand je viens dans sa présence, alors le Seigneur, il m'aide. Alors, on veut recevoir l'enseignement de la parole. Alléluia. Et pour cela, le Seigneur va donner des ministères d'hommes. Éphésiens chapitre 4, des ministères qui sont appelés de la part du Seigneur, des ministères qui sont donnés à l'Église. Et regardez Actes chapitre 2, verset 42, on va y revenir tout à l'heure également. Il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. On a besoin de persévérance, on a besoin d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi on a besoin d'entendre la parole de Dieu? D'où vient la foi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend? Romains, chapitre 10, et le verset 17. Alléluia. Amen. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Quand la parole de Dieu, elle est proclamée, elle fait un effet dans notre cœur. Alléluia. C'est qu'on est enseigné et la foi, elle grandit. Vous savez que la foi, elle a besoin de se développer. Ça commence par une petite foi, mais il faut qu'elle grandisse, cette foi. Amen. Donc on voit ici l'importance de la parole et des enseignements. L'Église est un lieu où la parole est enseignée, la parole est expliquée et la parole est appliquée. Trois choses, enseigner, expliquer et appliquer. Pourquoi plonger nos regards et être enseigné dans la parole de Dieu? Ça va nous préserver et nous garder des fausses doctrines. Aujourd'hui, il y a beaucoup, hein, beaucoup de fausses doctrines. On en a parlé un peu vendredi, hein, dans l'étude et le partage. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des choses qui viennent de certains pays. Il y a un mélange entre la doctrine et les coutumes. Que Dieu nous garde de bien regarder la parole de Dieu et de savoir ce que dit la doctrine, d'étudier la parole de Dieu. On a tous cette capacité de le faire. Le Seigneur nous donne son Saint-Esprit pour justement être enseigné. Alléluia. Elle nous protège des fausses doctrines. Elle nourrit notre croissance spirituelle. Ça, je l'ai dit. Alléluia. Donc, pourquoi venir à l'Église pour être ensemble, la louange, donc c'est un commandement divin pour la louange, pour la parole et également pour la communion fraternelle. Alléluia, amen, que le Seigneur soit béni. Donc on revient à Actes 2, 42, et là c'est l'autre partie de ce verset. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de communion fraternelle, être ensemble, être unis dans un même but. Dire, Seigneur, ce que nous voulons, c'est voir ta gloire. Ce que nous voulons, c'est que ton Église, elle prospère, pas dans le sens juste pour se faire du bien, mais que des hommes et des femmes, quand ils passent le pas de la porte, puissent se dire, assurément, Dieu est ici. Des hommes et des femmes qui vont venir avec des vies brisées, qui vont venir avec des questionnements, des recherches, ça serait tellement dramatique que des hommes et des femmes viennent dans cet endroit et repartent comme ils sont venus. La communion fraternelle. Merci Seigneur. Galates chapitre 6, verset 2 nous dit ceci. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns et les autres. Je remarque ici qu'il n'est pas dit, regardez-les de loin. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Vous avez remarqué que quand on vient au Seigneur, on se baptise, assez tôt, on va acquérir un langage spirituel. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ici, il est dit, portez. Porter, c'est faire un effort. Alors, on sait que certains sont les partisans du moindre effort. Hein. Certains, alors pas que les jeunes, hein, pas que les jeunes. Des fois, certains, ils traînent leur corps. Mais porter les fardeaux les uns les autres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un traverse un problème, une difficulté, c'est mon problème, c'est ma difficulté. Alléluia. Quand on demande de prier pour les uns et les autres, si je prie pour quelqu'un qui pourrait avoir l'âge de ma maman, je prie pour la sœur comme si c'était ma maman en fait. Je prie pour mon frère comme si c'était mon frère de chair. Seigneur, je t'en supplie, fais ton œuvre. Mais c'est ça en fait, porter les fardeaux les uns et les autres. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il y a une inversion de valeur. Chacun, il y a un certain individualisme que l'on retrouve. Mais porter les fardeaux les uns et les autres, vous savez quoi? À un moment donné, on aura besoin nous-mêmes d'être portés par les autres. Et à ce moment-là, mais Dieu, dans sa grâce, ce matin, il nous demande de rectifier. La foi chrétienne n'est pas solitaire. Si quelqu'un pense ça ce matin, c'est une erreur. C'est même un piège dans lequel le diable veut vous faire tomber. Aujourd'hui, plus que jamais, beaucoup de personnes, avec les moyens que nous avons, il y a des moyens qui sont excellents, hein, la vidéo, certains ne sont plus membres d'aucune église. Un peu ici, un peu là-bas. Et on vient dans l'église, cette catégorie de personnes, pour consommer l'église. Ce n'est pas comme cela que le Seigneur l'a prévu. Ce n'est pas que pour consommer, mais pour être également acteur de l'Église. Et pour ça, il faut s'attacher aux Églises. Et vous savez quoi? L'ennemi le sait plus que nous. Il le sait plus que nous en nous disant « mais c'est pas grave, c'est rien. T'inquiète pas, on verra plus tard. Un pied dedans, un pied dehors, on vient quand on y pense, quand il fait beau. » Ah non, non, surtout pas. Quand il fait beau, on va se balader. Alors je le dis comme ça, hein, mais il faut que ça vienne percuter nos cœurs pour qu'on puisse réaliser ce à quoi nous sommes appelés, alléluia, qu'il n'y ait pas de nonchalance ou d'autre chose. La foi n'est pas solitaire. La communion, elle apporte quoi finalement? C'est la question suivante. Pourquoi être ensemble? Pourquoi donc la communion fraternelle? Parce qu'elle apporte le soutien, je l'ai dit tout à l'heure. Elle apporte la prière, elle apporte l'amitié. J'espère que dans l'Église, vous avez les amitiés les uns avec les autres. Pas simplement, alors moi je le dis, quand je parle de ça, je mets l'accent dessus, avoir les affinités, des fois ça ne s'explique pas. Hein. Des fois il y a des personnes, on ne les connaît pas. Ça fait 30 secondes qu'on les connaît, ça y est, on dirait que ça y est, on est voilà. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Alors du coup, quand on vient dans la communion fraternelle, vous allez vous en apercevoir, directement on va être attiré comme pour aller voir ces personnes. Mais également, la communion fraternelle, voir celui qui est sur le côté, la personne qui est là, peut-être la mamie, qui est sur le côté, qui dit rien, qui dit pas un mot, mais porter nos regards, le soutien, l'amitié. La communion fraternelle, elle va apporter, normalement, et ça sert à ça, également à corriger dans des discussions, quand certains peuvent donner un point de vue, dire, tu sais, mon frère, ma sœur, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, voilà, on corrige. C'est pas corriger, on sort pas la verge, on tape pas derrière, voilà. Corriger. Mais également, la communion, elle apporte, vous savez quoi? La joie de se retrouver ensemble. Amen. Elle nous aide à tenir dans les épreuves. Que Dieu soit béni. Donc on a vu ici la communion fraternelle, elle nous aide aussi pour servir avec les dons que Dieu nous a donnés. Peut-être que ça va être une nouvelle pour quelqu'un ce matin. Est-ce que vous savez que vous avez reçu des dons ? Et est-ce que vous savez que vous ne les avez pas reçus que pour vous, pour les garder ? Ou pour aller les enterrer, les cacher jusqu'au retour du Seigneur ? Vous êtes appelé à faire fructifier ce don ? Il y a eu un amen timide, mais je comprends que ça peut être déstabilisant. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ah, peut-être que quelqu'un dirait, oh non, surtout pas. Mais si le Seigneur il nous unit ensemble, nous formons un corps. Le corps, ils ont plusieurs membres. Et en tant que membre, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ben, on doit dispenser la parole du Seigneur. Et c'est ce que dit Pierre, 1 Pierre 4, 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres. On le dit ou non ? C'est en bleu, on peut l'effacer. Aujourd'hui, vous savez, alors c'est écrit, il faut le dire. Mais il faut le vivre, on l'a vu tout à l'heure. Mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Des fois, il y a des dons, ils sont tellement enfouis qu'il faut aller creuser pour les sortir. Mais que Dieu nous aide vraiment à vivre ces choses-là. Dieu nous donne des dons pour le bien des autres, c'est ce que dit ce verset. Moi, je bénis le Seigneur pour la capacité qu'ont certains musiciens. À un moment donné, voilà, ils ont cette capacité, ben ils mettent leur don au service des autres. Et c'est vrai. Peut-être que je sais pas, Sylvain sera d'accord avec moi. Peut-être que ce matin, il aurait dormi 30 minutes de plus, une heure de plus. Mais ce matin, il s'est dit. Merci Seigneur, alléluia. Seigneur, tu m'as choisi pour que je joue au piano et que les frères et sœurs soient bénis au travers de la musique. Gloire à Dieu. Mais c'est ça en fait. Merci Seigneur. On va pas mettre mal à l'aise Sylvain. Donc oui, Dieu donne des dons pour le bien des autres. Il y a tellement de dons. Certains, ils sont excellents pour la gestion, administrer. Je le dis haut et fort, c'est pas vrai, le pasteur qui fait tout, qui sait tout. D'ailleurs, vous l'avez remarqué avec moi, il sait pas tout, et il sait pas tout faire. Mais que Dieu nous garde, alléluia, et qu'on puisse se mettre au service les uns des autres. L'Église est un lieu où ces dons s'expriment, encouragement, service, la musique, l'accueil. Moi, je remarque quand c'est certaines personnes qui sont à l'accueil. Je remarque qu'il y a une obéissance automatique. Quand c'est Timothée, il n'y a pas de souci. Peut-être que quand c'est Noé là, certains disent « Non, je veux pas aller devant, je veux rester derrière. » Je ne sais pas pourquoi. Mystère. Et non, voilà, l'accueil. On bénit le Seigneur, voilà, les frères et sœurs qui se lèvent pour vous accueillir. C'est important d'être accueilli quelque part. Eh oui, hein. Donc c'est même un honneur. Souvent je le dis sous forme de blague. Je dis voilà, on voulait vous faire une haie d'honneur pour vous recevoir dans l'Église de Christ. Et finalement, spirituellement, c'est un peu ça. Donc Dieu nous aide, l'accueil, la prière, prier les uns pour les autres. Et je bénis le Seigneur. Et c'est dans ce cadre-là que depuis quelque temps, dans les réunions de semaine, pour ceux qui ne peuvent se joindre à nous, on met maintenant automatiquement, vous pouvez assister en distanciel. Alors, évidemment, le mieux, en fait, c'est de se retrouver ensemble. Mais si vraiment on ne peut pas, il y a ce moyen-là, que personne ne se prive, mais qu'on puisse se retrouver, prendre un temps dans la prière. Alors, c'est sûr, il y a les activités. Mais moi, je crois que quand on veut, on peut. Quand on ne veut pas, on va trouver des excuses, ça c'est sûr. On reçoit l'enseignement et puis on reçoit peut-être de l'aide pratique. Pourquoi l'Église ? Ben pour accomplir la mission de Christ. Le Seigneur nous a donné une mission. Faites de toutes les nations des disciples. En principe, un disciple fait un autre disciple. Normalement, c'est comme ça. Faites dans le sens. Le mot « faites », c'est important. Faire, prendre du temps, être patient. faites de toutes les nations des disciples. Et pour être quoi également? Accomplir la mission de Christ. Cette mission, c'est d'être un témoin. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la mission que le Seigneur nous appelle à accomplir. Donc faire de toutes les nations des disciples, être des témoins dans la société, dans les personnes qui nous entourent, dans l'Église, évidemment, une communauté, elle est en mission, c'est un phare pour le monde qui est perdu. Vous avez remarqué quand la nuit, la nuit noire, mais quand il y a de la lumière, ça attire, hein, et puis ça éclaire, ça aide, et ça rassure. Mais le Seigneur, il nous met ensemble pour que nous soyons ce phare, afin d'éclairer déjà ce quartier, d'éclairer cette ville de Toulouse. Ils ont béni le Seigneur. Il y a tellement d'églises, je ne sais pas combien on est de chrétiens évangéliques sur Toulouse, il y a quand même un certain nombre, mais par rapport à toute la population, il y a du travail. Il y a du travail. Et c'est le temps de se remonter les manches et de dire « Seigneur, fais de nous, unis-nous ensemble pour accomplir cette mission. » Et puis, également, pourquoi aller à l'église? Pour être protégé spirituellement. C'est une protection. Être ensemble, ça protège. Vous n'êtes pas certain? 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Des fois j'ai des retours, mais je sais que vous êtes dans la réflexion de tout ce qui est dit. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ici, on voit qu'il y a un adversaire qui a un but. Le but, c'est de dévorer. Et quand on s'isole, on lui facilite la tâche. Mais quand on reste ensemble, il aura un peu plus de difficultés parce qu'on va veiller les uns sur les autres. Alléluia. Amen. Être dans l'Église. Et quand on est ensemble, il y a une force qui s'en dégage. Alors, en général, ce verset, on le prend pour des mariages, mais c'est également pour vérifier que quand le Seigneur est au milieu de deux personnes, alors la corde à trois fils, elles ne seront pas facilement. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12. La seconde partie, la corde à trois fils ne seront pas facilement. Le Seigneur au milieu, alléluia, et nous-mêmes. Seuls, on est vulnérables. Ensemble, on est fort. Alléluia. L'Église est un lieu de garde, de prière et de restauration. Amen. On va conclure avec ce dernier point. Pourquoi l'Église? Tout simplement, parce que Jésus aime l'Église. Et comme Jésus aime l'Église, alors je veux aimer l'Église. Quand on dit ça, des fois on peut avoir été blessé dans l'Église. On ne peut pas occulter ces choses-là, étant donné qu'on est des êtres perfectibles, on l'a dit encore une fois tout à l'heure. C'est comme ça, hein. Voilà, à un moment donné, même des fois ça, sans le faire exprès, puis on dit des paroles, elles sont malencontreuses, ou elles sont mal perçues, il y a une blessure qui est là. Alors quand c'est comme ça, des fois c'est des choses encore plus graves. Être dans la même église, sans se parler, une histoire qui est pas réglée, qui dure depuis des années. Mais je sais que Jésus aime l'église. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes. Les femmes disent
Amen.
Alléluia. Christine, elle a dégainé, là, vous avez vu. Daniel, il y a un message qui vient de passer. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Ici, il y a cette image de se livrer l'un pour l'autre. Alors, Christ à aimer l'Église. On ne peut pas aimer Jésus et mépriser ce qu'il aime. On ne peut pas aimer Jésus, c'est pas vrai. Mais si on méprise ce que lui, il aime. L'Église, c'est sa famille, c'est son épouse et c'est son corps. Alléluia. On conclut la dernière diapo. Juste conclusion et synthèse. Aller à l'Église, c'est quoi? C'est obéir à Dieu. adorer ensemble, grandir dans la parole, vivre la communion, servir avec nos dons, accomplir la mission, être protégé, aimer ce que Jésus aime. Alléluia. Moi, je ne sais pas vous, mais en le préparant, j'ai dit, Seigneur, on a vraiment besoin de ta grâce. On a vraiment besoin de s'unir ensemble, alléluia, pour avoir cette même vision. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est sûr, on vivra chacun de son côté. Mais déjà, ça peut commencer avec une remise en question, en mettant des choses en place, en disant, Seigneur, à partir voilà, d'aujourd'hui, que ce ne soit pas, vous savez, comme des fois on dit, à partir de demain, ça va changer. Mais vraiment quelque chose de concret. Seigneur, je veux mettre des choses en place. Je veux, Seigneur, appliquer certaines choses pour que ta gloire se manifeste, que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, oui, ton Église, Seigneur mon Dieu, c'est un miracle permanent. Seigneur, on le constate. Seigneur, on le vit. Mais Seigneur, combien nous aspirons encore à plus. Seigneur, nous aspirons vraiment à ce que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Seigneur, qu'il y ait davantage de signes, de prodiges, de miracles. Seigneur, déjà être reconnaissant de tout ce que tu nous donnes. Seigneur, oui, alors venir, nous retrouver ensemble, c'est tellement important. Seigneur, certes, il y a des activités, certes, il y a certaines choses, mais il y a des choses qui sont importantes. Seigneur, on l'a vu ce matin, on l'a partagé. Seigneur, tu as communiqué, Seigneur, cette pensée dans mon cœur que j'ai pu développer, Seigneur mon Dieu, avec la faiblesse du langage. Seigneur, maintenant, confirme ta parole dans les cœurs, qu'il y ait des décisions qui soient prises, Seigneur, afin que ton Église, elle aille de l'avant, Seigneur mon Dieu. Ce que nous voulons, c'est voir ta gloire, Seigneur mon Dieu, au milieu de nous. Seigneur, les aveugles recouvrir la vue, Seigneur, les boiteux marcher, Seigneur mon Dieu, les sourds entendre, Seigneur. C'est ce que nous désirons vraiment. Et ça, c'est ton œuvre, c'est ton royaume. Seigneur, qu'on puisse grandir également dans l'exercice des dons spirituels. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'Église. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous voulons y aspirer, Seigneur, dans la faiblesse, Seigneur mon Dieu, et dans l'humilité. Et je sais que, Seigneur mon Dieu, quand on est dans cet état d'esprit, alors toi, tu bénis ton Église. Seigneur, je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ce miracle que tu nous fais, Seigneur, d'être ensemble. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à bénir mon frère, à me préoccuper de mon frère, de ma sœur, de sa situation, Seigneur, encore davantage, Seigneur, et que nous puissions veiller les uns sur les autres, Seigneur, pour que ta gloire se manifeste, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni.